La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Aujourd'hui, nous allons parler de pollution lumineuse. C'est un sujet d'actualité, mais tout le monde ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. On connaît bien la pollution chimique, celle qui vient par exemple des gaz des pots d'échappement, ou encore celle des nanoplastiques qui polluent l'atmosphère à un certain niveau. On connaît bien aussi l'importance de l'augmentation des gaz à effet de serre qui conduisent au réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que la pollution lumineuse ? Pour beaucoup de gens, c'est un problème d'astronome. Les lumières électriques dans les villes et les campagnes empêchent les êtres humains de voir le ciel étoilé, ce qui est très dommage. Mais n'est-ce vraiment que cela ? Nous allons voir que la prolifération des lumières électriques la nuit ont des conséquences dramatiques sur la faune, sur la flore et même sur nous, les êtres humains. Mon invité d'aujourd'hui pour parler de tout cela est Sébastien Vauclair, spécialiste depuis de nombreuses années de la lutte contre la pollution lumineuse. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Sébastien est un astrophysicien qui s'est orienté après ses études universitaires dans deux directions différentes mais complémentaires. Il a d'abord monté une entreprise avec sa femme Céline, Cosmodif, la clé des étoiles, où il propose tout type de matériel lié à l'astronomie. En parallèle, il a fondé un bureau d'études scientifiques, Dark Sky Lab, dédié au développement d'outils pour mieux comprendre la pollution lumineuse et ses effets. Sébastien est à l'origine de la création de la réserve de ciel étoilé du Pic du Midi, dont on fête cette année le 10e anniversaire. Nous verrons qu'il existe maintenant 5 réserves de ciel étoilé en France. Et ça continue. Nous parlerons dans une deuxième émission de l'influence néfaste de la pollution lumineuse sur la faune sauvage et la biodiversité et des solutions qui sont proposées. Mais d'abord, Sébastien, j'aimerais que tu nous parles de la création de Dark Sky Lab et des outils que vous développez.
Dark Sky Lab existe depuis une petite dizaine d'années maintenant, mais en fait, je me suis alerté de cette question de la pollution lumineuse depuis assez jeune. Alors c'est un phénomène physique très bien connu, hein, ça s'appelle la diffusion. Quand on a la chance de pouvoir aller à la campagne, loin des centres urbains, on voit en fait la lumière des villes très très loin, à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres à la ronde. On appelle ça le halo lumineux.
Ça fait un halo rouge un peu, hein ?
Alors ça fait un halo orangé, c'est une très bonne remarque, mais on pourra y revenir, parce que ce halo est de moins en moins orangé. Parce que si ce halo est orangé, c'est lié en fait au type de source qui émet la lumière, principalement des sources de type sodium, haute pression en fait, qui était jusqu'à en ce moment la très grande majorité des types de sources qui étaient installées à l'extérieur.
C'est-à-dire les lampadaires.
Absolument, oui, on parle de sources parce que pour nous c'est un objet d'étude scientifique, mais dans le langage commun c'est effectivement les lampadaires qu'on a tous dans toutes les rues. Et donc cette question de, je reviens sur le halo lumineux orangé, en fait c'est vraiment lié à la source, et maintenant on transforme en fait tous ces lampadaires assez naturellement, parce que les lampadaires, ben, au bout d'un moment ils deviennent obsolètes, donc on fait des rénovations, et maintenant on passe tout ça avec des LED. Les LED posent plein de questions, ont plein d'avantages, mais posent plein de questions. Ça fait partie des solutions dont on pourra discuter un petit peu plus tard. Mais donc pour revenir sur le fil un petit peu historique de pourquoi on en est arrivé à créer Dark Sky Lab, en fait, et professionnaliser un petit peu une démarche qu'on avait déjà depuis plusieurs années, voire même dizaines d'années, sous forme de bénévolat et au sein de différentes associations. Et en particulier la création de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, c'est en 2009. Et donc ça nous a donné un petit peu des ailes à ce moment-là. Alors on n'a pas inventé le concept, hein, c'est un label qui existait déjà. C'est un label qui est attribué par une instance qui s'appelle l'International Dark Sky Association. Et la toute première réserve de ciel étoilé qui avait été créée à cette époque-là, elle avait été autour du mont Mégantic, qui est un observatoire professionnel, mais qui accueille aussi du public au Québec. Au Canada. Et donc on s'est dit, ben, pourquoi pas nous ? Et donc on a lancé ce projet qui était un petit peu fou à l'époque de cette première réserve internationale de ciel étoilé.
C'est allé très vite en fait pour obtenir le label. On s'est allé, on s'attendait à avoir une dizaine d'années et c'est venu beaucoup plus vite, non ?
Oui, alors tout est relatif. Il a quand même fallu 5 bonnes années puisque l'idée a germé en 2008 et le label est arrivé fin 2013. Mais je dois dire qu'on n'était pas trop mécontents puisqu'on s'attendait effectivement à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, au moins le double. On pensait au départ que déjà si on l'avait fait en 10 ans, on aurait été content. Donc là, on l'a fait en 5, c'était encore mieux. Donc, évidemment, on n'a pas été tout seul là-dedans. Nous, on a initié le projet. On était une petite association. Je profite pour saluer quelqu'un qui est devenu un très bon ami depuis, qui s'appelle Nicolas Bourgeois, qui a commencé en fait à travailler sur le sujet au sein de l'association Pyrène qu'on avait créée à l'époque pour ce projet et qui depuis est un des fers de lance du sujet et qui est devenu directeur adjoint du Pic du Midi, quelqu'un d'assez exceptionnel sur le sujet. Et alors en fait, pendant le déroulé de ce projet du Pic du Midi, je réexpliquerai encore une fois plus tard en quoi ça consiste exactement. Il y a des questions techniques, des questions de mesure, etc. Mais il y a aussi beaucoup un travail finalement d'approche des élus, de sensibilisation des élus, puisque en France, hein, c'est le maire finalement qui décide comment il éclaire son village. Et donc il a fallu faire tout ce travail aussi un petit peu auprès des politiques et des techniciens, des réseaux en général.
C'est-à-dire que toutes les villes et les villages autour du Pic du Midi ont été invités à changer leur méthode d'éclairage pour obtenir moins de lumière vers le ciel, c'est ça ?
C'est un petit peu l'idée. En tout cas, on leur a proposé de s'engager. Évidemment, il n'y avait pas d'obligation, hein, mais dans ce projet, il y a une nécessité quand même d'engagement total de 100% des communes du territoire concerné, auxquelles on fait effectivement des propositions, des préconisations, d'amélioration, ce qui est en général assez vite accepté puisque ça s'accompagne de très grosses économies d'énergie, mais là aussi on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc juste pour terminer l'historique, ben pendant ce projet, on a été amené encore une fois à discuter avec pas mal de communes, et d'ailleurs bien au-delà de la réserve elle-même, communes qui nous ont fait comprendre que ça pourrait les intéresser de travailler avec nous. Mais on est en France, et en France, il faut savoir que quand on doit travailler comme ça avec des collectivités, ça passe par ce qu'on appelle des marchés publics. Et tout simplement, pour répondre à des marchés publics, on ne peut pas le faire en tant que bénévole dans des associations. Et donc est arrivée l'idée de professionnaliser en créant une société finalement qui s'appelle Dark Sky Lab. C'est aussi pour moi un petit retour de l'histoire sympathique puisque comme j'ai commencé à être professionnel en faisant de la recherche fondamentale en astrophysique, aujourd'hui j'éprouve particulièrement de plaisir à développer des projets de recherche mais un peu moins institutionnels puisqu'on le fait nous-mêmes avec nos fonds propres au sein de notre propre société.
Et alors là donc vous avez développé des outils que vous utilisez à la demande donc de collectivités locales un peu partout en France pour mesurer les effets de la pollution lumineuse et aussi donner des conseils pour modifier cette pollution, modifier les lampadaires, etc. C'est ça ?
Oui, alors effectivement, la plupart des gens avec qui on échange et pour qui on travaille finalement sont les collectivités. Alors les collectivités, ça va de la petite commune à des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, même à l'échelle département, région, voire même la France entière. Il commence à y avoir aussi d'ailleurs des travaux plus dans la sphère industrielle, puisqu'il y a de plus en plus d'études d'impact aussi par rapport à des sites industriels ou à des constructions de nouveaux sites. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça commence à infuser un peu dans ces milieux-là. Et puis on fait aussi des projets de pure recherche, où on accompagne des projets de recherche fondamentale de laboratoire, du CNRS et autres. Et donc effectivement, on a en fait, si on peut dire, trois grands axes de recherche et de développement qui ont tous les mêmes objectifs, qui sont d'aboutir à des outils qui peuvent être vraiment utilisés pour répondre à des questions concrètes des collectivités. Et comme tu l'as dit, ça va être d'aboutir à des solutions concrètes de visualisation de la pollution lumineuse, de mesures, de propositions, de solutions techniques aussi. Et donc les trois axes de développement, si je mets un quatrième entre parenthèses, qui est tout ce qui tourne autour de la sensibilisation, de la formation, etc., parce qu'on fait beaucoup aussi dans ce domaine-là. Et donc les trois axes principaux de développement, alors premièrement, c'est tout ce qui concerne l'analyse scientifique des données. Les deux grands types de données qu'on va avoir, ce sont des données techniques par rapport aux points lumineux, donc les lampadaires, comme on l'a dit tout à l'heure. En gros, on sait qu'en France, il y a à peu près 11 millions de lampadaires d'éclairage public, plus tout ce qui est privé, particulier, etc. Et donc chacun des lampadaires peut être connu par rapport à sa position GPS, par exemple, longitude, latitude, très précisément, et de quoi est composée la source lumineuse. Est-ce que c'est une lampe de type lampe à décharge au sodium, ou est-ce que c'est une LED, est-ce que c'est une lampe plutôt composée de, d'autres types de gaz comme du mercure, par exemple, qui sont des choses qui sont aujourd'hui interdites mais qui existent encore en France. Ensuite, c'est important de savoir aussi quelle est la puissance installée, parce que ça va être aussi lié au coût, mais aussi à la quantité de flux lumineux installé, donc à la quantité de lumière finalement qui peut générer des nuisances, mais aussi des questions liées à la direction du flux, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que le flux lumineux est envoyé que vers le bas? C'est a priori la logique, hein. Un lampadaire, c'est fait pour éclairer là où nous, on est être humain sur le plancher des vaches, et on voit malheureusement beaucoup trop de lampadaires qui émettent beaucoup de lumière vers le ciel. Donc ça, c'est du pur gaspillage, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui le cas dans la législation française, c'est important de le dire, hein, puisque tous les travaux qu'on a pu mener, nous et d'autres évidemment, depuis toutes ces années, ont permis d'aboutir à une des législations les plus abouties en la matière au monde, puisque la France, depuis 2018, a un arrêté qui définit en fait un certain nombre d'obligations techniques, comme le fait d'éclairer que vers le bas, ou le fait d'éclairer avec des lumières plutôt chaudes, c'est-à-dire avec peu de bleu dans le spectre d'émission de la source, pour parler un tout petit peu plus technique, puisqu'une source, on peut décomposer la lumière qu'elle émet en spectre, hein, scientifiquement, et on sait que plus il y a de bleu, plus ça va avoir d'effet délétère, que ce soit sur le voilement du ciel, que ce soit sur l'impact sur la biodiversité, ou même sur les enjeux par rapport à la santé humaine. Donc ça, c'est la partie donc, purement technique, analyse de base de données. Et là, je tiens aussi à saluer un de mes collègues qui s'appelle Philippe de Vercher, qui a apporté un coup d'accélérateur phénoménal au développement de Dark Sky Lab. Je n'avais pas cité aussi le fondateur historique avec moi, qui s'appelle Michel Bonavitacola, qui est vraiment une des premières personnes à avoir tenter en fait de travailler scientifiquement sur cette question en plantant la toute première graine d'un outil qui est aujourd'hui notre outil principal, qui permet de faire des cartographies de pollution lumineuse. Et donc Philippe de Vercher, qui est ingénieur et qui a un très bon bagage de traitement de données en général, a permis vraiment de mettre un coup d'accélérateur assez phénoménal aux activités de Dark Sky Lab en particulier. Ce serait beaucoup trop long de citer tout ce qu'il a pu apporter, et puis il est toujours là aujourd'hui pour nous accompagner dans toutes les activités justement de recherche et développement de Dark Sky Lab, qui depuis un an et demi a un petit peu évolué, un petit peu grossi pour être en mesure de répondre à toutes les demandes et sollicitations.
Donc vous faites des mesures, vous faites des cartographies pour, encore une fois, des collectivités locales. Et alors le but, c'est de réduire les coûts, c'est de réduire la pollution lumineuse vers le ciel. Et puis il y a aussi un effet important sur la biodiversité, sur la faune, la flore. On va en reparler la semaine prochaine parce que c'est un sujet assez important. Donc merci Sébastien, à la semaine prochaine.
Avec plaisir, à la semaine prochaine.